Le livre de Ruth est empreint de suspense. Il commence avec deux veuves démunies de tout, Noémie et Ruth, qui, après avoir quitté le pays de Moab, arrivent à Bethléem dans le sud de la Palestine. Je suis arrivé au dénouement, au moment crucial de ce livre où Boaz, de la famille de Noémie, accepte officiellement, devant tous les responsables du village, de prendre en charge la lignée de son feu parent, Élimélec, qui était marié à Noémie, mais qui est décédé ainsi que leurs deux fils. Tous les hommes sont donc morts. Je continue le texte. Alors, Boaz déclara aux responsables et à tous ceux qui étaient là, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Noémie tout ce qui appartenait à Élimélec et tout ce qui était à Kélion et à Malon. De ce fait, je prends aussi pour femme Ruth, la Moabite, la veuve de Malon, pour susciter au défunt une descendance qui recevra son héritage et pour que son nom ne disparaisse pas dans son lignage et dans sa ville natale. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Versets 9 à 10. Boaz appelle les notables à être témoins de la double transaction. D'une part, le déchaussé a officiellement refusé de prendre Ruth pour femme et ainsi d'acquérir les propriétés de la famille d'Elimelech. D'autre part, il a cédé ce droit à Boaz qui lui prend le tout. C'est ainsi qu'il va accomplir le devoir du Lévirat auprès des deux veuves. Cet homme généreux et au cœur tendre honore les morts de la famille d'Élimélec en étant prêt à leur donner une postérité, quitte à écorner tant soit peu la sienne. Il a compassion des vivants, de ces deux femmes qui sont démunies et sans défense. En retour, l'Éternel a élevé Boaz en le plaçant, lui, Ruth, et leur fils, Obed, dans la généalogie du Messie. Je continue le texte. Alors tous ceux qui se trouvaient à la porte et tous les responsables dirent, « Oui, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et à Léa qui, à elles deux, ont donné naissance à tout le peuple d'Israël. » Puisses-tu toi-même prospérer à Éphrata et devenir célèbre à Bethléem. » Verset 11. Éphrata est un autre nom pour le village de Bethléem. Ces notables reconnaissaient spontanément que ce rachat des propriétés d'Élimélec et de la veuve Ruth était extrêmement honorable. Ils se déclarèrent donc les témoins heureux de cette transaction publique et officielle qui venait d'avoir lieu. Rachel et Léa étaient sœurs et furent les femmes de premier rang du patriarche Jacob, l'ancêtre de la nation d'Israël. Chacune de ces deux femmes avait une servante qui leur était attachée et qu'elles donnèrent à leur mari comme ventre à accoucher, pour ainsi dire, afin d'obtenir par leur intermédiaire davantage d'enfants. Je sais bien que cela semble des plus bizarres. Il faut savoir que ces deux sœurs étaient jalouses l'une de l'autre et de farouches rivales. Cette histoire est racontée dans le livre de la Genèse. Quoi qu'il en soit, ces femmes et à toutes les quatre conçurent les 12 fils de Jacob qui devinrent le peuple d'Israël. Cependant, Rachel était tout d'abord stérile, comme Ruth l'a été jusqu'à présent. Les deux épouses moabites des deux fils de Noémie n'ont pas eu d'enfants, ni l'une ni l'autre, alors que la famille résidait dans le pays de Moab. Il est plus que probable que c'était là un jugement divin contre Élimélec, sans que le texte ne dise vraiment pourquoi. Dans notre histoire, Ruth va donner naissance à la lignée du roi David, qui, avec ses descendants, jouera un rôle essentiel dans l'histoire d'Israël. Je continue le texte. Que l'Éternel t'accorde par cette jeune femme une descendance aussi nombreuse que celle de Pérets, le fils que Tamar a donné à Juda. Verset 12. Les descendants de Pérets s'étaient installés à Bethléem et Boaz en faisait partie. Les notables mentionnent cet ancêtre parce que sa naissance, qui est racontée dans le livre de la Genèse, fut elle aussi liée à l'application de la loi du Lévirat. La prière des responsables du village est une déclaration comme quoi les enfants sont un don de l'Éternel. Bien des passages de l'Ancien Testament l'affirment aussi, comme ce passage d'un psaume que je cite. « Des fils, voilà bien l'héritage que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. » Fin de citation. Nul ne se doutait alors que cette union entre Booz et Ruth allait donner la lignée d'où naîtrait le plus grand roi d'Israël et un jour, sous forme humaine, le roi des rois et le seigneur des seigneurs en la personne de Jésus-Christ. Je continue le texte. « C'est ainsi que Booz prit Ruth pour femme. Lorsqu'il se fut uni à elle, l'Éternel accorda à Ruth de devenir enceinte et elle donna naissance à un fils. » Verset 13. Le passage indique clairement que Dieu est intervenu afin que Ruth devienne enceinte. Ce fut, pourrait-on dire, une naissance miraculeuse qui préfigure celle qui aura lieu dans une étable, également à Bethléem, 11 siècles plus tard. Ce sera le premier Noël. La malédiction qui pesait sur la famille d'Élimélech est désormais levée. Je continue. Les femmes de Bethléem dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas privé d'un soutien de famille. Que son nom devienne célèbre en Israël. » Verset 14. La lignée de Booz et celle d'Élimélec se croisent avec la naissance du fils de Ruth et de Booz. Cet enfant est béni par les femmes de Bethléem et il deviendra effectivement célèbre puisque, comme je l'ai dit, il sera le grand-père du roi David et fera partie de la généalogie du Christ. À partir d'ici commence la conclusion du livre qui est en miroir à l'introduction. Noémie réapparaît sur scène. Au début de l'histoire, elle était dans le dénuement complet et dans une grande détresse. À partir de maintenant, sa vie sera faite de joie dans l'abondance. Les femmes de Bethléem, qui avaient été témoins de sa misère lorsqu'elle arriva au village en compagnie de Ruth, rendent maintenant gloire à l'Éternel pour avoir pris soin d'elle en lui donnant un fils. Je continue. Il te rendra une raison de vivre et prendra soin de toi dans tes vieux jours, puisque c'est ta belle-fille qui t'aime, qui t'a donné ce petit-fils. Elle vaut mieux pour toi que 7 fils. Verset 15. Les femmes de Bethléem ne tarissent pas d'éloges sur Ruth, la déclarant avoir plus de valeur que 7 fils, ce qui était pourtant le comble de la bénédiction en Israël. Il est vrai que cette femme moabite a eu dès le début de l'histoire une conduite exemplaire et digne de louange. Humainement parlant, c'est bien grâce à elle que l'histoire a un dénouement heureux et que ses 2 veuves retrouvent le bonheur. Heureusement que Dieu veillait, car Noémie avait fait tout ce qui était en son pouvoir afin de décourager Ruth de l'accompagner en Israël. Je continue le texte. Noémie prit le nouveau-né et le serra sur son cœur. C'est elle qui se chargea de l'élever. Les voisines s'écrièrent, « Noémie a eu un fils !» et elles lui donnèrent le nom d'Obed. Obed fut le père d'Isaïe et le grand-père de David. Verset 16. En serrant ce nouveau-né sur son cœur, Noémie l'adoptait et devint sa gouvernante. C'est cet enfant qui devenait l'héritier de la famille d'Élimélech. Noémie avait vu mourir son mari, puis ses 2 propres enfants et n'avait plus la possibilité d'en avoir d'autres. Heureusement, et grâce à Dieu, elle a obtenu un nouveau fils par l'intermédiaire de Ruth et du parent rédempteur qui a démontré sa valeur en accomplissant le devoir du Lévirat. Au début du livre, lorsque Booz avait montré de la bienveillance envers Ruth, il l'avait bénie disant « Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait et que le Dieu d'Israël, sous la protection duquel tu es venu t'abriter, t'accorde une pleine récompense. » Fin de citation. Il ne savait pas alors qu'il serait lui-même la réponse humaine à sa propre prière. Le livre se termine par un appendice sous forme d'une généalogie. Voici la liste généalogique de Pérets. Pérets eut pour fils Hetsron, qui eut pour fils Ram, qui eut pour fils Aminadab, qui eut pour fils Nachon, qui eut pour fils Salma, qui eut pour fils Bouz, qui eut pour fils Obed, qui eut pour fils Isaïe, qui eut pour fils David. Versets 18 à 20. Cette liste sélective comprend 10 noms. Dans l'ascendance du Christ que nous donne l'évangile de Matthieu, Ruth est l'une des 5 femmes qui sont mentionnées. Les événements relatés dans ce livre sont somme toute très ordinaires. Les gens voyagent, se marient, ont des enfants, meurent, moissonnent, mangent, dorment et font des tractations légales. Cependant, derrière ces événements anodins de la vie, on voit la main invisible de l'Éternel qui accomplit son plan. Alors que les malheurs s'amoncelaient sur Noémie et que sa nuit se noircissait toujours davantage, Dieu avait en vue sa bénédiction par l'intermédiaire de Ruth, la Moabite, une étrangère pourtant hors de l'Alliance. Que ce soit la détresse ou les petites choses anodines de la vie, rien n'échappe à la souveraineté et à l'action de l'Éternel. Ce petit livre est très important car il fait le lien entre la tribu de Juda et la lignée de David. Les personnages sont imbriqués dans le plan éternel de Dieu pour la race humaine. Ce récit préfigure l'histoire de la rédemption, le rachat de l'humanité par Jésus-Christ. Comme Bouz, Jésus devint un proche parent en revêtant la forme d'un homme, comme le dit maintes fois le Nouveau Testament. Je cite 2 passages. « Lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son fils, né d'une femme, lui qui, dès l'origine, était de condition divine. Il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. » Fin de citation. Jésus-Christ vint faire partie de la famille humaine essentiellement afin de la racheter de la détresse due au péché. En second lieu, Jésus-Christ, comme Bouz dans l'histoire, devait accepter de devenir le Rédempteur. Je cite un passage qui souligne sa volonté de racheter la race humaine. En entrant dans le monde, le Christ a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, alors tu m'as formé un corps. Tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Fin de citation. Le Christ a délibérément choisi son rôle de sauveur, l'agneau qui enlève le péché du monde. En troisième lieu, un parent rédempteur doit être en mesure de nous racheter. Il doit en avoir les moyens. Bouz était un homme riche et de valeur. Jésus a lui aussi le pouvoir de sauver tous ceux qui le veulent. Je cite 2 passages de l'Écriture. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Jésus, parce qu'il demeure éternellement, est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par son intermédiaire, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. » Fin de citation. La mort expiatoire du Christ a une valeur infinie et sa résurrection est la garantie de son statut de rédempteur et de son pouvoir de rachat. De l'histoire charmante de Ruth dans l'Ancien Testament, nous passons maintenant à un tout autre sujet, celui des Actes des Apôtres. qui se situe dans le Nouveau Testament juste après les quatre évangiles. Cependant, il existe un lien entre ces deux livres. En effet, le personnage fort sympathique de Booz qui a épousé Ruth était, comme je viens de le dire, une préfiguration de Jésus-Christ. Il annonçait par sa personne et sa conduite le Fils de Dieu à venir. Or, le sujet traité par le livre des Actes est véritablement l'œuvre du Christ au travers de ses apôtres, et en particulier de Paul. Le livre des Actes fut écrit tout au début des années 60 du 1er siècle. Il se présente comme le second volume d'un ouvrage sur les débuts du christianisme qui suit et complète l'Évangile selon Luc. Conformément à la pratique du temps, aucun de ces deux ouvrages ne mentionne le nom de son auteur. Cependant, les preuves que c'est bien Luc qui en est l'auteur foisonnent, ne serait-ce que par les termes médicaux qui apparaissent ici et là dans le livre. Médecin et historien, Luc était aussi un missionnaire qui accompagna l'apôtre Paul dans plusieurs de ses voyages. De plus, il fut le pasteur pendant 6 ans de l'église de Philippe à qui Paul adressa une de ses lettres. Le titre « Les actes des apôtres » n'est pas très précis puisque le livre ne renferme pas tout ce que les apôtres ont accompli. Seuls Pierre et Paul y occupent une place importante. Le grand apôtre Jean y est mentionné en passant, mais aucune de ses paroles ne nous est rapportée. Par ailleurs, le meurtre de son frère Jacques nous est rapporté en une courte phrase. Cette œuvre imposante de 28 chapitres pourrait plus précisément être intitulée « Certains actes de certains apôtres ». Ce livre reprend le cours de l'histoire à l'endroit où les quatre évangiles l'avaient laissé. Le dernier fait concernant Jésus qui nous est rapporté dans l'évangile de Matthieu est sa résurrection. Dans l'évangile de Marc, c'est son ascension. Dans celui de Luc, c'est la promesse du Saint-Esprit et l'ascension. Et finalement, dans l'évangile de Jean, c'est la résurrection et le retour du Christ. Tous ces événements qui terminent les quatre évangiles sont mentionnés dans le premier chapitre des Actes des Apôtres. Ce livre est par ailleurs de tous les écrits canoniques, c'est-à-dire ceux qui sont tenus pour inspirés de Dieu, le seul qui reprend l'ascension du Christ et continue avec la suite des événements. Les Actes des Apôtres constituent l'arrière-plan et le cadre des écrits de l'apôtre Paul. Cet ouvrage nous donne une information de base sur l'Église primitive et un aperçu de son fonctionnement. Luc décrit les tensions, les persécutions, les frustrations, les problèmes théologiques et les espoirs qui confrontaient les premiers chrétiens. En outre, le livre des Actes marque la transition entre le judaïsme, sous la loi de Moïse, et l'établissement de l'Église universelle dans laquelle sont conviés tous les peuples de toutes les langues. De plus, il contient en germe tous les grands principes du christianisme qui seront développés dans les épîtres du Nouveau Testament. Luc avait plusieurs buts subsidiaires lorsqu'il écrivit le livre des Actes. Un thème qui soutient toute l'histoire est celui de la souveraineté de Dieu. En effet, malgré une vive opposition aux origines variées, mais essentiellement religieuses, la parole de Dieu se répand partout sous la direction du Seigneur et beaucoup de gens se sentant interpellés y répondent. Rien ne peut arrêter la croissance constante de l'Église naissante. Cependant, l'Évangile opère une division. Plus il gagne du terrain et plus profonde est la rupture entre le temple et la synagogue d'une part et l'Église d'autre part. Les Juifs auxquels s'adressaient les promesses de l'Éternel depuis Abraham jusqu'aux prophètes, ce peuple, dans son immense majorité, rejette l'Évangile avec violence. Luc nous rapporte tout ce qui a contribué à faire l'histoire des débuts de l'Église, que ce soit les 110 personnages qu'il mentionne, les événements depuis l'ascension du Christ, diverses circonstances de la vie sous la domination romaine ou les faits et gestes qui entouraient le ministère de certains apôtres. C'est de cette manière qu'il rapporte l'expansion du christianisme, la propagation du message de l'Évangile à Jérusalem, puis en Judée, la province environnante, et ensuite en Samarie, dans le nord, et ainsi jusqu'aux extrémités de l'Empire. Luc montre comment cette nouvelle religion, qui avait vu le jour dans un petit coin de Palestine, avait, en un peu plus de 30 ans, atteint Rome. D'ailleurs, le verset clé de ce livre est « Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Fin de citation. Effectivement, au fil des actes, Luc explique comment le message du royaume de Jésus dans les évangiles passe des Juifs aux païens et de Jérusalem à Rome grâce à la puissance du Saint-Esprit et par le biais des apôtres. L'intention de Dieu pour son royaume millénaire encore à venir est qu'il soit composé de croyants issus de toutes les nations, Juifs et païens. Le plan des 28 chapitres de ce livre s'articule autour de la progression de l'Église. Le lecteur commence dans la ville sainte, puis parcourt toute la Palestine pour finalement se retrouver dans Rome, au beau milieu du monde païen. Cette croissance spectaculaire de l'Église du 1er siècle, que rien ne peut enrayer, est le premier et certainement le plus grand des réveils spirituels que le monde ait connu. C'est la preuve que l'Église est une œuvre divine, celle du Saint-Esprit, et non pas une entreprise humaine. C'est de cette manière que Dieu prouve à tous que Jésus-Christ est bel et bien ressuscité des morts, un thème qui reviendra sans cesse dans les prédications des apôtres. La résurrection de Jésus est cruciale parce que c'est mon passeport pour la vie éternelle.